Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Attention, accueil, miséricorde. C'est dans cet état d'esprit que l'Église catholique entend aborder les problématiques familiales lors d'un synode extraordinaire en octobre 2014. Union libre, mariage gay, divorcé remarié, famille monoparentale, mère porteuse, toutes les questions seront abordées. En France, les évêques entendent exprimer leur point de vue avec respect mais fermeté. Ils se réunissent en assemblée plénière à Lourdes. Parmi leurs inquiétudes, les violences subies par les Roms, les lois de bioéthique et l'euthanasie, vous entendrez l'évêque de Lourdes. Nous reparlerons aussi de la Syrie dans ce magazine. L'Annonciature a été touchée par un obus de mortier. Nous avons joint Mgr Zenari à Damas. La troisième assemblée extraordinaire du Synode des évêques se tiendra du 5 au 19 octobre 2014 au Vatican sur le thème des défis pastoraux sur la famille dans le contexte de la nouvelle évangélisation. Ce mardi matin, le rapporteur du Synode, le secrétaire général et le secrétaire spécial ont présenté aux journalistes le document préparatoire du prochain Synode. Un questionnaire qui a été envoyé la semaine dernière aux conférences épiscopales avec pour consigne de le faire connaître au plus vite et le plus largement possible au sein des diocèses et des paroisses. Les conférences épiscopales d'Angleterre et du Pays de Galles, ainsi que celles des États-Unis, tout comme le diocèse de Guyane en France, ont ainsi fait le choix de publier sur Internet ce document composé de 39 questions sur la famille. Une manière particulière de préparer la prochaine assemblée, a souligné Mgr Baldisseri, secrétaire général. Marie Duhamel a assisté pour nous à la présentation du prochain synode dans la salle de presse du Saint-Siège.
Il reste moins d'un an avant le synode extraordinaire. À la demande du pape rapporteur et secrétaire du synode, se sont immédiatement mis au travail et c'est pour raccourcir les délais qu'ils ont décidé d'envoyer ce questionnaire qui vient se substituer au traditionnel lineamenta. La consultation est donc ouverte, suivant le souhait du pape de renforcer la collégialité. L'Église se met à l'écoute des familles. 39 questions sont adressées aux couples, aux parents qui tentent au quotidien de suivre l'Évangile, mais aussi à tous ceux qui ne sont pas en règle et qui doivent pouvoir être accueillis. Accueil et miséricorde, c'est en effet le style du pape François, explique le secrétaire spécial du synode. Sollicité sur le concept de loi naturelle, sur la pastorale de la famille, la préparation au mariage, les mariages mixtes, mais également l'attention apportée aux couples homosexuels ou la question des divorcés remariés. Pas de tabou et aucune peur de devoir affronter des divisions au sein de l'Église. L'important est que le synode soit honnête et qu'il propose au pape la réalité telle qu'elle est, afin qu'il puisse au mieux discerner les décisions à prendre, explique le secrétaire spécial du synode, car, dit-il, au bout du compte, le pape seul tranchera. La doctrine pourra-t-elle subir des modifications au regard des problèmes pastoraux? Non, répond le cardinal Erdeux, le rapporteur du synode. Des solutions concrètes peuvent être trouvées en suivant le message de Jésus. Du reste, conclut le secrétaire spécial, ce n'est pas l'Évangile qui change, c'est nous qui le comprenons mieux.
L'Église consulte les laïcs, ils seront d'ailleurs évidemment présents lors du synode extraordinaire et parmi eux se trouveront des femmes, a assuré Mgr Baldisseri. Pour autant, pourront-ils prendre une part active à l'Assemblée synodale? Le secrétaire du synode répond que si une réforme, une révision générale du synode a été annoncée, celle-ci sera d'ordre méthodologique pour rendre cet instrument de collégialité plus efficace. Un bureau sera d'ailleurs créé pour accueillir un secrétariat général. C'est un synode des évêques et non des laïcs, a poursuivi Mgr Baldisseri, pour qui les discussions sont ouvertes, mais dans le cadre des structures préexistantes. Ainsi a-t-il conclu, il s'agit d'interpréter le règlement actuel avec plus de dynamisme. En France, le nouveau président de la Conférence des évêques, Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille, a prononcé ce mardi 5 novembre le discours d'ouverture de l'Assemblée plénière d'automne à Lourdes. S'inscrivant résolument dans le sillage du pape François, Mgr Pontier, qui a pris ses fonctions le 1er juillet dernier, a exhorté les catholiques français à regarder la vie du monde à partir des souffrants, des plus pauvres, des petits, des affligés, à la manière du Christ, et à trouver des voies évangéliques dans la vie ordinaire de leur communauté paroissiale. Olivier Bonnel.
Le nouveau président de la conférence n'a pas évité des sujets qui fâchent et qui divisent la société française. Le sort des Roms, la crise économique, les lois de bioéthique, l'euthanasie. Il les a abordés sans détour, avec humilité et fermeté, selon le style du pape François dont il se réclame. L'Église est comme un hôpital de campagne après une bataille. Nous devons soigner les blessures, Ensuite, nous pourrons parler de tout le reste. Mais l'Église a son mot à dire, et en le faisant, elle ne contrevient pas à la séparation des Églises et de l'État. Monseigneur Pontier invite donc l'État à observer une neutralité bienveillante, tout en rassurant ceux qui pourraient en douter. Les chrétiens sont des citoyens qui aiment leur pays. Pas question donc d'aller au-delà de ce qui pourrait troubler la vie publique ou exprimer une volonté d'hégémonie. Mais le président des évêques ne se prive pas pour autant de faire part de son indignation face au sort qui est fait en France aux populations d'origine bulgare ou roumaine et de fustiger des propos et des actes trop influencés, dit-il, par des surenchères politiciennes locales ou nationales. Évoquant la souffrance des enfants, victimes des choix personnels de leurs parents et de la fragilisation des couples, Mgr Pontier regrette le recours aux techniques de fécondation assistée et met en garde contre le droit à l'enfant. Parmi les autres sujets de vive inquiétude, les projets de loi sur l'euthanasie, l'affaissement des solidarités familiales et sociales, ainsi que le fossé croissant entre riches et pauvres. Quand s'arrêtera la course au toujours plus pour quelques-uns, lance Mgr Pontier, en encourageant tous les responsables à trouver les chemins d'une société plus juste.
Au programme des débats qui se poursuivront jusqu'au 10 novembre, l'Europe à quelques mois d'élections importantes, la pastorale des jeunes adultes, l'éducation à l'affectivité, le phénomène social de l'avortement, la formation des futurs prêtres ou encore la préparation au mariage chrétien. Durant leur assemblée, les évêques de France évoqueront également le drame que vivent les communautés chrétiennes au Proche-Orient et au Moyen-Orient et dans quelques autres pays du monde. Ils appuient pleinement leur souhait bénéficier d'une citoyenneté pleine et entière, d'une liberté de religion non discriminante et vivre dans des pays dont la constitution civile reconnaisse la pluralité de la population. C'est généralement à Lourdes, lieu de prière par excellence, que se tiennent les assemblées des évêques de France. Et Mgr Pontier a tenu à exprimer sa solidarité avec tous ceux qui ont été touchés par les fortes inondations du printemps dernier et a remercié tous ceux qui contribuent à la remise en état de ce sanctuaire si important pour les catholiques. Nous avons interviewé l'évêque de Lourdes, Mgr Nicolas Brouvet. Il insiste sur le défi que représentent les questions de bioéthique en France.
Une loi, en tout cas un projet de loi, est en préparation. Sur la fin de vie, l'idée, ça serait de réformer la loi Leonetti de 2005 pour pouvoir en fait ouvrir une voie à des pratiques euthanasiques. Et donc il y a de la part des associations, puis de la part des évêques aussi, une inquiétude sur ce sujet.
Est-ce que l'Église a tiré les leçons du débat sur le mariage homosexuel et va aborder sa résistance contre une éventuelle réforme du droit en ce qui concerne la fin de vie de manière différente?
Moi j'espère qu'il va y avoir une prise de conscience. Alors c'est vrai qu'on est dans un contexte assez compliqué en France en ce moment. C'est vrai que le gouvernement peut-être a d'autres questions sur le feu en ce moment. En tout cas, moi j'ai l'intention de me mobiliser et je crois qu'il y a un certain nombre d'évêques qui sont prêts à le faire aussi.
L'épiscopat français est uni pour faire face à ces thèmes ou, évidemment sans parler d'opposition, mais est-ce qu'on peut parler de courant ou de façon de voir différente en ce qui concerne le dialogue notamment avec la société?
Là, on a un groupe de travail en ce moment sur la présence de l'Église dans la société contemporaine. Donc il y a une réflexion, c'est exactement ça, comment est-ce qu'on se positionne, comment l'Église se positionne dans la société actuelle, dans les débats de société. Sur le mariage gay, évidemment, il n'y avait pas d'unanimité, non pas sur la question elle-même, mais sur la manière dont l'Église s'y prend pour faire entendre sa voix. Et c'est sûr que je crois que pour la question de l'euthanasie, c'est la même chose. C'est-à-dire que certains évêques pensent qu'il faut véritablement être présent dans les médias. D'autres pensent que c'est pas notre rôle et que c'est plutôt le fait d'associations laïques. Il n'y a pas vraiment, disons, d'unanimité sur la manière de faire. Sur le message, il est clair. On peut être que contre toute pratique de l'euthanasie. Mais ensuite, sur la manière de s'y prendre, là, je crois qu'on n'est pas tellement unis. Et en plus, on n'a pas tellement de méthode de réflexion. Alors, est-ce que le nouveau président de la conférence des évêques donnera une direction claire, plus claire? Ça, on va voir, hein, puisqu'on vient de changer de président et que ce sera sa première session des évêques.
L'évêque de Lourdes, Mgr Nicolas Brouvet, interrogé par Olivier Tosserie. Toujours en France, l'archevêque de Lyon a réagi ces jours derniers dans les colonnes du Figaro à la décision de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité d'organiser sa journée nationale d'action le 2 novembre, jour où l'Église catholique commémore les défunts. Le cardinal Barbarin souligne que profiter de cette date pour promouvoir l'euthanasie est ressenti comme une violence. En revanche, il salue les efforts qui sont faits pour diminuer la douleur des malades et apaiser les souffrances. La dignité de la vie humaine transcende toutes les circonstances et les conditions de notre existence, rappelle le cardinal Barbarin, qui met en garde contre le risque que l'expression « mourir dans la dignité » devienne un piège ou une tromperie si elle entend déterminer quelles sont les conditions d'une vie digne et obtenir par la loi le droit de donner la mort à ceux dont on juge qu'ils sont sortis de ce cadre. Je vous le disais en titre, un obus de mortier est tombé mardi matin sur le toit de l'annonciature apostolique de Damas, l'ambassade du Vatican, causant uniquement des dégâts matériels. Depuis plusieurs mois, des obus de mortier tombent quotidiennement sur différents quartiers de la capitale. Le régime en accuse les rebelles. Le quartier des ambassades est relativement épargné. Écoutez les explications du nonce apostolique, Monseigneur Mario Zenari.
C'était ce matin tôt, vers 6h30. Et je venais de me réveiller, tout de suite j'ai entendu cette forte explosion et après on s'est aperçu que ce n'était pas autour de l'annonciature comme c'est passé déjà les semaines, les mois passés, mais c'était sur les toits de l'annonciature. Et grâce à Dieu, il y a eu seulement des dégâts matériels à la structure de l'annonciature. Des dégâts, je dois dire, limités. La chose, ce serait passé 2 heures, 3 heures plus tard, peut-être les choses vont être plus sérieuses quand viennent les ouvriers, les employés. On aurait pu avoir des blessés, mais grâce à Dieu, comme c'était 6h30 le matin, personne n'a été blessé, grâce à Dieu.
Monseigneur Zenari, est-ce que vous sentez qu'il est de plus en plus difficile de vivre à Damas, justement là où vous êtes, dans ce contexte de guerre?
Vous savez, ça fait des semaines qu'il paraît, surtout dans ces quartiers où se trouve l'annonciature et des autres ambassades, paraît un peu tranquille, mais tout d'un coup, vous n'êtes jamais sûr. Et juste hier, j'ai entendu dire que depuis le début de ces conflits, sur les quartiers de Jaramana, un quartier populaire ici de Damas, sont tombés, imaginez-vous, 2 800 obus sur le quartier de Jaramana. Et ici, autour de l'annonciature, dans les mois passés, nous avons eu très proche de l'annonciature, presque une dizaine d'obus qui sont tombés. Comment lire tout ça? Est-ce que sont tous ces obus sont tombés ici par erreur, par hasard? Chacun peut lire un peu tous ces événements comme il croit, mais ça préoccupe aussi un peu. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que tout le monde ici, tous les Syriens sont fatigués de cette guerre et il faut que la violence s'arrête immédiatement, que les parties en conflit s'assoient autour d'une table et trouvent une solution vite, une solution politique.
On sait que la conférence de Genève a bien du mal à s'organiser. Les diplomates y travaillent ces jours-ci. Est-ce que vous croyez, vous, à cette conférence? Est-ce qu'elle peut vraiment s'organiser d'ici la fin de l'année?
Je crois qu'il faut vraiment tenir et vraiment travailler, même si parfois il n'y a pas beaucoup à espérer, mais je crois que vraiment, vraiment, il faut tenir, parce qu'autrement, on va vers le pire, vers le chaos. On a déjà, il faut dire, obtenu quelque chose, par exemple, au début de septembre, quand la communauté internationale était très, très sensible à ce qui pouvait se passer, quand le Saint-Père a programmé cette journée de prière et de jeûne, on a évité le pire, quand même, on s'est mis d'accord avec les armes chimiques. C'était un acquis extraordinaire. Alors, ça nous donne aussi l'espoir de dire la communauté internationale doit doubler des efforts, mais jamais renoncer, même s'il y a des difficultés insurmontables.
Monseigneur Zenari, nonce apostolique à Damas, interrogé par Olivier Bonnel. Malgré la guerre qui fait rage en Syrie, une immense statue en bronze de Jésus Sauveur a été érigée il y a une vingtaine de jours sur une colline, sur le chemin du traditionnel pèlerinage de Constantinople à Jérusalem, au sommet du village chrétien de Sednaïa, à une vingtaine de kilomètres de Damas. Grâce à la médiation des églises orthodoxes russes et d'Antioche, une trêve a été établie entre les trois factions dominantes du secteur pour les 3 jours nécessaires à la mise en place de cette statue de Jésus qui étend les bras sur le pays. La sculpture, réalisée dans l'espoir de voir un arrêt rapide des effusions de sang en Syrie, a reçu le nom de « Je suis venu sauver le monde ». Je vous rappelle que Sednaïa est l'un des sanctuaires chrétiens les plus visités d'Orient. Quelques 800 chrétiens ont prié pour la réconciliation entre les deux Corées dans la zone démilitarisée. Ces fidèles qui appartiennent à différentes confessions chrétiennes participent jusqu'au 8 novembre en Corée à la 10e Assemblée générale du Conseil œcuménique des Églises. Lundi, ils se sont rendus en pèlerinage dans une petite ville située à la frontière qui divise la péninsule. Ils se sont réunis près de la cloche de la paix installée en 1972 et ont prié pour la réunification du pays. La cloche a été sonnée par 7 personnes représentant toutes les régions du monde. Les participants ont ensuite traversé le pont de la liberté qui représente la ligne de front pour voir de près la réalité de la division. Le pont a été mis hors d'usage après l'armistice. Des jeunes ont noué des rubans contenant des prières et des messages de paix sur le grillage qui a été posé le long de la ligne de démarcation. L'Assemblée générale du Conseil œcuménique des Églises, qui a justement pour thème la justice et la paix, coïncide avec le 60e anniversaire de la division des deux Corées. Et au Mexique, un évêque a participé à une marche pour la paix rassemblant des milliers de fidèles. La population vit depuis longtemps dans un climat de grande tension et de peur à cause des violences perpétrées par la criminalité organisée. Le 16 octobre, Mgr Miguel Patiño Velázquez a publié une lettre dans laquelle il dénonce les enlèvements, les meurtres, la corruption qui poussent les familles à émigrer. Face à la gravité de la situation, la conférence épiscopale mexicaine demande une intervention urgente du gouvernement. Avec ses fidèles, Mgr Patiño Velázquez est descendu dans la rue pour dénoncer l'insécurité et redonner l'espérance à la population. Une messe pour la paix a été célébrée dans la cathédrale. Au Maroc, les réseaux sociaux se sont mobilisés après l'arrestation de jeunes âgés de 14 et 15 ans qui avaient posté des photos de leurs baisers. Cette affaire a bousculé une société très marquée par le conservatisme. Le procès pour atteinte à la pudeur s'ouvrira le 22 novembre. Alors qu'en est-il de la liberté de conscience, de mœurs et de religion au Maroc ? Élément de réponse avec Pierre Vermeren, spécialiste du Maroc à l'université Paris 1.
La liberté de conscience et notamment la liberté de religieuse n'existe pas. Elle est inscrite dans le cadre de la charia qui a été transcrit, codifié dans les lois de l'État marocain au lendemain de l'indépendance. Donc il n'y a pas de liberté de conversion par exemple. Mais sur la question des mœurs, parce que là on n'est pas sur une question religieuse, on est sur la question des mœurs, on a aussi des lois extrêmement rigides. Elles sont rarement appliquées, mais il y a régulièrement des autorités locales qui décident tout d'un coup d'appliquer telle ou telle loi. Alors évidemment, c'est pas dans le sens du temps, parce que le Maroc et le roi notamment, les élites marocaines se montrent plutôt libérales, mais concrètement, cet appareil juridique, il est toujours là. Et par contre, moi, ce qui m'intéresse davantage à propos de cette affaire, c'est d'abord qu'elle se passe dans une région très frondeuse qui s'appelle le Rif, dans une ville berbériste de premier plan à l'échelle du Maghreb, aux frontières du président espagnol, et qu'une fois de plus, on voit qu'une affaire qui n'est pas de très grande importance, même si symboliquement elle est forte, mais enfin, il n'y a pas eu mort d'homme, et bien que cette affaire déclenche une vague de protestations très importante dans le pays. Et on voit aujourd'hui que grâce aux réseaux sociaux, l'opinion publique marocaine et aussi grâce à un certain nombre d'associations et de relais dans la société civile, les actes comme ça, arbitraires ou les actes d'autorité, sont immédiatement un vecteur de mobilisation. Et ce qui oblige d'ailleurs le pouvoir à faire très attention avec la gestion de ce genre d'affaires aujourd'hui.
Justement, concernant ces volontés, ces velléités de protestation, est-ce qu'ils sont encore vifs, présents au Maroc, ou bien tout germe de révolte a été étouffé ?
L'organisation qu'on avait appelée l'organisation du 10 février a été relativement contrôlée, démantelée, elle n'existe plus. Il y a bien un mouvement marocain contestataire au point de vue politique, mais le relais a été pris par des associations plus anciennes, notamment, par exemple, l'Association marocaine des droits de l'homme. Mais, en revanche, à l'occasion d'un certain nombre d'événements, par exemple l'extradition du pédophile irako-espagnol cet été, ou bien l'arrestation et l'emprisonnement d'un journaliste il y a un mois, ou bien encore, par exemple, cette histoire de baiser, on voit qu'il y a une certaine volatilité et que dans un pays qui vit à son époque, on voit très bien qu'il y a des mobilisations qui peuvent se faire très rapidement sur tel ou tel point et que le pouvoir est obligé d'en tenir compte. Et ça, c'est quand même assez nouveau, c'est assez récent, c'est postérieur au printemps arabe de 2011 et c'est bien sûr, je pense, quelque chose qui doit faire beaucoup réfléchir les autorités marocaines actuellement.
Pierre Vermeren, spécialiste du Maroc, interrogé par Olivier Tosseri. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie, mais je vous invite à nous retrouver également sur Internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican, en français.